Bonjour François, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, certainement. Alors, je m'appelle François Chartrand, je suis traducteur de formation, traducteur agréé également et président du cabinet de traduction Versacom et du cabinet de traduction IDEM.
Et vous, vous avez la chance de travailler avec les travailleurs autonomes et les travailleurs à l'interne, mais c'est quoi la différence?
C'est un choix important que les gens sont appelés à faire, celui d'être salarié d'une entreprise, que ce soit une entreprise de taille moyenne ou de petite taille ou d'une grande entreprise, à titre de l'engagé donc, ou encore d'être travailleur autonome. Je dirais que la différence majeure, c'est évidemment une question de contrôle. C'est l'idée d'être son propre patron. Quand on désire être entrepreneur, c'est qu'on a un désir d'indépendance, on a un désir de contrôler son horaire, davantage ce qu'on fait. Ça vient par contre avec des responsabilités qui sont plus lourdes, qu'il s'agisse de la gestion, de l'administration d'une entreprise, comme du démarchage, de la relation client, des enjeux de responsabilité quant à la qualité aussi. Donc, le fait d'être en entreprise individuelle, ça vient avec certains défis. C'est également exaltant, très stimulant, alors qu'à l'interne, que ce soit dans un cabinet ou dans un service linguistique, parce qu'il y a vraiment, on peut dire, deux types de relations d'employés, là, quand on est traducteur ou l'engagé. On peut travailler pour un cabinet de traduction ou un service interne d'une grande entreprise. Eh bien, c'est sûr que là, on fait partie d'une hiérarchie. Par contre, on a des collègues également qui pratiquent le métier avec nous. On a accès à un encadrement, une formation, on a des perspectives, c'est certain, de croissance de carrière aussi. On peut se diriger même vers d'autres domaines.
Ce serait quoi les avantages d'être travailleur autonome et les avantages d'être travailleur à l'interne?
Il y a des avantages indéniables à être également, comme je dis, un entrepreneur indépendant puis être un travailleur autonome. Être son propre patron, c'est vrai, hein, ça a du charme. On dicte un peu la façon dont les choses vont se passer. C'est nous qui dictons les normes qu'on veut respecter. C'est nous qui on choisit ses clients aussi dans une certaine mesure. Encore une fois, quand il y a une abondance de demandes, ça va mieux. Quand le marché baisse un peu, on peut être un peu à la traîne. On peut devoir, évidemment, faire de la promotion. L'autre avantage, évidemment, c'est bon de contrôler dans une certaine mesure sa charge de travail aussi. Il peut être difficile de prendre congé, hein, parce que quand on est le seul à vendre son talent, bien, on peut hésiter à se rendre indisponible, on peut craindre de manquer une belle occasion quand on s'absente. Alors, c'est un peu un risque. Il faut, cela dit, prendre des vacances, bien évidemment. Donc, on a le contrôle, on a le choix de le faire. On a une incidence directe sur son revenu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut travailler beaucoup plus et faire beaucoup plus, et on peut travailler moins et puis peut-être chercher peut-être à augmenter son tarif dans le but de compenser. Donc, on a un contrôle également sur son revenu. Ça vient avec, évidemment, des responsabilités, comme je le disais aussi, qui sont importantes sur le plan de la qualité. On est le seul à répondre de nos actes, évidemment. Donc, comme tout entrepreneur, on est également le département des plaintes, comme on dit. Ça peut se révéler être un enjeu pour certains. On doit être un assez bon, je crois, autopromoteur. Alors, il y a des travailleurs indépendants, des entreprises individuelles qui sont excellentes dans ce domaine-là. Il y en a d'autres qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à se mettre en valeur, à se faire connaître. Alors, il faut avoir un petit peu un naturel de marketer aussi pour être vraiment performant. Parce que le démarchage, le contact client, c'est quelque chose qui doit se faire constamment. Ce n'est pas parce qu'on a une charge complète de travail qu'on ne doit pas chercher de nouveaux clients, selon moi. C'est toujours sain et une bonne idée d'établir des ponts parce que plus tard, ils pourraient nous être utiles. Le démarchage auprès des clients, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas toujours immédiatement. Ça peut prendre des mois et vous allez être heureux d'avoir pris contact avec un client, ne serait-ce que de façon prospective, pour ensuite travailler avec lui un an plus tard, par exemple. Alors, ça vient avec des défis, ça vient avec de la liberté. On pourrait dire que c'est un peu comme tout dans la vie. Quand on a plus de liberté, on a également un petit peu plus de risques. Alors, je dirais que c'est pour les gens qui ont un esprit, évidemment, forcément plus indépendant, plus entreprenant. Il faut avoir un certain sens, à mon avis, de l'entre-gens aussi et de la promotion, parce qu'on doit présenter nos services, on doit les expliquer davantage. Et puis, on a aussi un certain courage, je vous dirais, parce que c'est sûr que quand on est salarié dans une grande entreprise, il y a une sécurité qui vient avec ça, hein, évidemment. Et je ne parle pas seulement du revenu. Je parle du statut, je parle de l'encadrement, encore une fois. Je parle de la protection juridique également, parce qu'en tant que traducteur, on a une responsabilité quant à la qualité et l'exactitude de notre propos et de notre travail. Alors, c'est sûr qu'en cas d'erreur, on s'expose à des critiques, on s'expose à parfois même des poursuites, parce qu'on traite des renseignements qui sont importants. Donc, c'est sûr que l'entrepreneur d'emblée doit avoir une personnalité qui est plus indépendante Et donc, oui, l'avantage, ce sera peut-être une pluralité de mandats. C'est la possibilité de choisir un petit peu ce qu'on a envie de faire. C'est la possibilité, dans certains cas, d'avoir peut-être un revenu plus élevé parce qu'on va pouvoir accepter peut-être plus de travail ou enfin, selon notre capacité de travail, se rendre extrêmement disponible et donc pouvoir commander une rémunération qui est plus élevée. Ça vient avec, évidemment, un effort supplémentaire, c'est sûr.
Et comment un collaborateur sollicite un client?
Par les temps qui courent, je vous dirais que c'est à peine nécessaire. Soyons francs, la demande étant très forte en traduction, en localisation, en gestion de projet, en traduction. Et ça, c'est pas étranger, vous le savez, à la présence ou à la promulgation de la loi 96. Donc, les entreprises ont énormément de besoins en traduction actuellement. Mais normalement, il convient aussi de faire une certaine sollicitation. Alors, pour les professionnels, moi, je recommande de, évidemment, s'afficher sur les réseaux professionnels, notamment LinkedIn, mais également ceux d'associations professionnelles. La présence d'un site web, la création d'un site web pour une entreprise individuelle en traduction, est-ce que c'est nécessaire? Assez peu de collaborateurs le font. Bon, quand on veut peut-être travailler à plus grande échelle, ça va finir par être nécessaire. Quand on veut s'associer avec d'autres, entre autres, il sera pertinent d'avoir une société avec un site web. Mais sinon, vraiment, c'est de faire partie des associations et de s'afficher sur les réseaux comme étant donc une ressource compétente, puis en décrivant évidemment les services qu'on offre. Et il y a beaucoup, évidemment, de bouche à oreille. Les clients satisfaits vont vous recommander à d'autres sociétés. Quand ils vont quitter peut-être l'emploi de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ils vont vous rappeler. Alors, c'est un peu comme ça que ça se fait pour les collaborateurs, les travailleurs autonomes, à mon avis. C'est beaucoup une question de recommandation aussi.
Et qu'est-ce qu'un cabinet recherche chez un collaborateur?
On recherche, bien sûr, la disponibilité. Par les temps qui courent, c'est, je vous dirais, presque pas loin d'être la qualité principale. On cherche quelqu'un, évidemment, qui a les compétences pour faire le travail, qui a, évidemment, la plupart du temps, un diplôme en traduction reconnu. Je dis la plupart du temps parce qu'il y a des traducteurs très compétents qui sont des professionnels avec une formation autre que la traduction et qui sont devenus d'excellents langagiers et traducteurs. Donc, moi, je ne suis pas un puriste de ce point de vue-là. Je crois qu'il y a d'excellents praticiens d'autres professions qui sont devenus de bons traducteurs. On recherche une certaine polyvalence, une ouverture à la technologie, bien sûr, sans obliger à la post-édition ou à l'utilisation de la traduction machine. On apprécie l'ouverture que présentent les collaborateurs à l'utilisation d'outils, que ce soit évidemment mémoire de traduction, concordancier de tout ordre, et bien sûr moteur de traduction aussi, de plus en plus. On recherche des compétences assez précises. On va chercher des spécialistes de certains domaines. Le domaine financier, par exemple, le domaine bancaire, le domaine des sciences de la vie, le domaine du transport, l'aéronautique. Donc, il y a certains collaborateurs, traducteurs, qui ont des formations dans certains domaines spécialisés ou encore se sont intéressés au fil du temps à ces domaines-là. Ils sont maintenant, on pourrait dire, des experts du domaine. La traduction technique, traduction financière, traduction juridique. Alors, on va rechercher également un profil spécialisé et avoir recours à leurs compétences.
Est-ce que les collaborateurs ont accès à des outils de traduction assistée par ordinateur?
Oui, bien sûr, de plus en plus. Le traducteur doit connaître, comprendre et se doter d'outils informatiques. Mais en ce qui concerne les moteurs de traduction, il y a des précautions à prendre, évidemment. Les outils qui sont non sécurisés, les moteurs qui sont d'accès public, peuvent présenter un problème sur le plan de la confidentialité, sur le plan de la sécurité de l'information. Donc, quand on traite avec un cabinet, quand on traite avec une multinationale, qui est ce qu'on pourrait appeler un client final. Donc, admettons que vous traitez avec une entreprise et que ce n'est pas par l'entremise d'un cabinet de traduction, bien, vous devez prendre garde aux outils que vous utilisez parce que, bon, il faut s'assurer que l'information que vous traitez, elle demeure confidentielle. C'est évidemment pas le cas d'outils comme Google Translate, par exemple, ou d'autres moteurs qui sont hébergés sur des serveurs à l'étranger, par exemple, ou qui n'ont pas de politique de ségrégation des données puis très claire. Je pense que les outils dont on vient de parler projettent une impression d'obsolescence. Et je crois que c'est pas par manque d'intérêt pour la profession. Je pense qu'il y a des gens qui croient que notre métier va être complètement automatisé, ou l'est déjà peut-être. Et ça crée une impression d'obsolescence qui décourage peut-être certaines personnes de s'intéresser à la traduction au travail langagier, alors qu'on n'a jamais eu tant de travail. Et c'est certainement pas avec l'avènement d'outils comme ChatGPT qu'on va en manquer. Parce que vous savez que l'intelligence artificielle s'intéresse de plus en plus à la création de contenu. Et qui dit création de contenu, dit encore plus de contenu, dit encore plus rapidement et dit encore plus de traduction. Alors oui, les outils permettent de traduire plus vite. Certains outils vont remplacer certaines tâches que font les langagiers. Oui, on se dirige vers un rôle qui est peut-être davantage celui d'un contrôle qualité. Mais jamais on n'a eu tant de travail. Alors, j'espère vraiment que les gens vont s'intéresser à notre métier, que ce soit à la pige, à titre de travailleur autonome ou qu'ils souhaitent se joindre à une entreprise comme la nôtre.
Est-ce que c'est préférable de télécharger un logiciel ou aller sur le navigateur quand tu traduis avec des comptes compensés?
La clé, c'est de s'assurer que vous avez le droit d'utiliser ces outils. Donc, chaque entreprise a des normes de sécurité de l'information qui peuvent changer, qui sont de plus en plus exigeantes d'ailleurs. Alors, ma suggestion, mon conseil, c'est de vous demander à votre client si, par exemple, les outils cloud, les outils nuagiques sont permis, et de l'informer des outils que vous utilisez. Je pense que la transparence est de mise ici, l'honnêteté. Vous ne regretterez pas d'avoir respecté les normes de sécurité d'un client. On ne pourra rien vous reprocher ensuite.
C'est quoi la relation entre les cabinets et les traducteurs indépendants?
Bien, on espère, nous, on estime qu'il s'agit d'un partenariat. Il ne s'agit pas d'une rivalité, il s'agit d'une entraide. Et vraiment, on a besoin de collaborateurs avec qui il y a une relation régulière. Et on estime que qu'à l'inverse, les collaborateurs gagnent beaucoup à traiter avec un cabinet de traduction. Peut-être pas comme unique client, j'en conviens. C'est très bien, à mon avis, qu'un travailleur autonome ait également des entreprises avec qui il traite directement. Mais on estime qu'il est très avantageux et nécessaire pour un collaborateur d'avoir une relation réussie avec un cabinet de traduction. Il s'agit d'une relation d'entraide, d'encadrement. Quand vous traitez avec un cabinet, vous avez, comme je vous dis, la protection de quelqu'un qui gère la relation avec le client. Quand les choses vont moins bien, vous pourriez commettre une erreur, vous pourriez avoir certains enjeux qualitatifs. Personne n'est à l'abri, personne n'est parfait. Bien, c'est le cabinet qui vous épaule dans la relation avec le client. Il n'y a pas une relation de blâme. On est ensemble, on apporte les correctifs. C'est vraiment un partenariat. En plus, évidemment, d'avoir accès, je crois, à une variété de textes, à une variété de mandats qui est très intéressante. Avoir accès à une technologie peut-être aussi, à laquelle vous ne pourriez pas utiliser en temps normal, etc. Donc, on va même jusqu'à partager les formations avec nos collaborateurs et tout ça. Donc, c'est une question, une relation de quasi-employé que moi, j'estime très, très profitable à tout le monde. Donc, nous, on estime que notre relation avec les collaborateurs chevronnés, compétents, elle est excellente. On voit vraiment un intérêt à l'entretenir, à les traiter comme des partenaires. Et c'est, comme je vous dis, c'est nécessaire pour un cabinet en santé, un cabinet de traduction, de compter sur un certain nombre de collaborateurs externes. C'est une question de solidité, c'est une question de capacité. Nous, on doit être capable, comme on dit en anglais, to scale up. On doit être échelonnable. On ne peut forcément pas avoir tous les traducteurs langagiers chargés de projet à notre disposition à l'interne en tout temps. La demande fluctue beaucoup. Donc, les collaborateurs sont là pour nous offrir, évidemment, une souplesse qui est absolument, absolument nécessaire.
C'est quoi la différence entre les agences et les cabinets de traduction?
Sur le plan de la définition, une agence, à proprement dit, c'est surtout une entreprise qui va agir en tant qu'intermédiaire. Je vois les agences comme ayant un comportement de courtier, c'est-à-dire alors offrir des services professionnels ou le plus professionnel possible à des clients, mais essentiellement se contenter de trouver ces professionnels indépendants et de revendre leurs services à plus fort prix à des clients. On estime faire partie de la catégorie, nous, des cabinets professionnels qui, en plus, évidemment, d'offrir des services professionnels et en plus de fédérer des ressources professionnelles, bien, offrent des services supplémentaires aux clients. Évidemment, les services des professionnels qu'on recrute, mais en plus, des conseils, de l'encadrement, de la formation, la garantie de qualité. Donc, un réel sérieux derrière la pratique professionnelle. Un soutien aux organismes de formation, une participation active aux associations, etc. Donc, c'est pour ça que je prêche pour cette paroisse-là, c'est-à-dire que j'estime qu'il y a une différence importante à faire entre une agence qui va se comporter davantage comme un courtier et qui va vraiment chercher, en fait, à, soyons francs, faire un profit au moyen de, donc du recours à des traducteurs indépendants, par exemple, versus un cabinet qui, lui, va investir dans une équipe interne compétente et va vraiment agir à titre de partenaire avec des collaborateurs externes. Puis il y a une question de tarif aussi derrière tout ça.
Mais justement, en parlant de tarifs, est-ce que les tarifs sont pareils?
Les tarifs ne sont pas les mêmes. Il va y avoir une fluctuation. Évidemment qu'un cabinet de traduction va offrir généralement un peu moins, en effet, en honoraires à un travailleur autonome que le ferait un client direct. La raison pour ça est évidente. D'abord, d'emblée, c'est vous qui faites l'offre de service à une entreprise, à un client final. Donc, c'est sûr qu'il a le choix d'accepter ou non votre tarif. Alors que le cabinet, c'est lui, évidemment, qui établit les tarifs qu'il est en mesure d'offrir aux collaborateurs. Et ça dépend de l'entente qu'il a avec le client lui-même.
Est-ce qu'on peut réviser nos tarifs?
Alors, oui, c'est une bonne question. Et il faut régulièrement, je pense, revoir ces tarifs. Alors, la grande question, c'est comment fait-on pour réviser ces tarifs? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Évidemment que ça ne viendra pas du client. Le client ne vous proposera pas une augmentation de tarifs. Puis je vous dirais qu'on est dans un marché très particulier où ce n'est vraiment que cette année ou depuis les 18 derniers mois qu'on peut envisager une stabilisation des tarifs. Parce qu'on était dans une industrie spéciale ou un marché spécial dans lequel les tarifs sont en fait à la baisse depuis des années. Parce qu'il y a toujours la présomption d'efficience accrue grâce aux outils. Maintenant, avec l'abondance de demandes, avec le fait qu'il y a une relative pénurie également de main-d'œuvre et de compétences, on est en mesure de cesser cette baisse-là des tarifs et même de les hausser un peu. Alors, grand bien nous en fasse. C'est pas facile. Ça se justifie bien. Il s'agit d'expliquer. Il y a des facteurs économiques qui peuvent être cités, mais aussi simplement le coût des ressources, le coût des abonnements, par exemple, aux différents services. Si vous traitez avec un réviseur et que vous avez vous-même donc un fournisseur, bien, vous pouvez évidemment citer une hausse de tarif du côté de ce fournisseur-là. Et actuellement, bien, je vous dirais que c'est comme n'importe quel secteur de l'économie. Il faut avoir les bons arguments. Il faut bien sûr offrir un service qui en vaut la peine.
Et est-ce que c'est tous les cabinets qui offrent les mêmes services et ont toutes les mêmes combinaisons?
Alors, non, ce n'est pas tous les cabinets qui offrent les mêmes services, qui offrent les mêmes combinaison de langues, mais c'est sûr que le bilinguisme institutionnel, les lois protégeant les langues officielles, les attentes du public, les attentes des médias font que la traduction professionnelle est mieux rémunérée au Canada. De plus en plus, évidemment, on doit aller dans le multilingue. La différence aussi se situe dans la façon dont on fait le travail. Certains cabinets ou agences vont se dire multilingues, vont dire qu'elles offrent des services dans plusieurs langues. Mais offrent-elles le même niveau de service dans chaque combinaison de langues? Vont-elles, par exemple, offrir une révision, un contrôle qualité aussi rigoureux?
Est-ce qu'on a besoin d'un réviseur?
Quand vous traitez avec un cabinet de traduction, vous allez être révisé. Donc, il y a une sécurité qui vient avec ça. Vous avez une garantie qui est offerte au client que quelqu'un d'autre a révisé votre texte. Si vous tenez absolument à vous lancer en entreprise dès que vous terminez votre diplôme, eh bien, à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, ce qui peut être intéressant, c'est de vous associer avec un collègue qui agira à titre de réviseur. Encore mieux de vous associer peut-être avec un réviseur chevronné, évidemment, que vous allez payer et que vous allez intégrer dans votre offre tarifaire à votre client. Bon. Et je pense que c'est la façon la plus intelligente de se lancer en affaires quand on veut, quand on n'a peut-être pas tout à fait assez d'expérience, mais aussi plus tard. Le fait d'avoir une relation professionnelle avec un réviseur indépendant et de l'intégrer dans son offre de service, je pense que c'est judicieux.
Sur le plan de la gestion, ça implique quoi d'être travailleur autonome?
Contrairement à un salarié, le travailleur autonome, il doit gérer sa rémunération d'une façon différente. Évidemment, quand on est dans une grande entreprise ou un cabinet de traduction, hein, on reçoit tout simplement un salaire, généralement aux deux semaines, et puis on ne se préoccupe pas de facturation. Donc, le travailleur autonome, lui, il doit facturer. Donc, l'action de facturer en elle-même est un travail. Et ça peut être relativement complexe, ça dépend avec qui vous traitez. Il y a des systèmes de facturation chez certains clients qu'on doit respecter. Il y a des formats auxquels on doit s'habituer. Il y a des outils dont on doit se doter pour gérer notre facturation. Et il faut se rappeler que c'est votre rémunération, donc vous devez y voir. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc, c'est vos entrées de fonds. Donc, je vous dirais, selon moi, que quelqu'un qui est une entreprise individuelle doit s'apprêter à se consacrer à cette activité-là et de savoir facturer et de s'y adonner donc avec célérité et puis soin. Donc, on doit se doter d'outils pour le faire. Puis selon la taille de vos affaires, de vos opérations, bien, ça peut être une activité qui est relativement prenante. Il y a l'aspect de l'impôt, évidemment. Donc, vous devez, bien sûr, sur le plan comptable, traiter avec un vérificateur ou à tout le moins un comptable qui va vous aider dans vos déclarations d'impôts qui sont plus complexes que celles d'un particulier salarié, forcément. Il y a la question des taxes. Vous devez percevoir les taxes. Donc, vous devez disposer d'un numéro de taxe, que ce soit la taxe de vente du Québec ou la TPS au Québec. Ailleurs, dans les autres provinces, il y a d'autres normes sur le plan des taxes. D'emblée, je pense que c'est encore le seuil qui est énoncé. Lorsqu'on dépasse un chiffre d'affaires de 30 000 $ à son compte, on doit avoir donc un numéro de taxe et on doit percevoir les taxes et on doit les payer soi-même. Donc ça, il faut se rappeler de ça, la gestion des taxes. Et ça vient avec des démarches administratives qui sont, je crois, trimestrielles, voire même mensuelles dans certains cas. C'est des choses qui sont à considérer, ça prend du temps. Et ça vous enlève du temps professionnel, ça vous enlève du temps facturable. Hein? Donc c'est quelque chose qui doit être optimisé. Il existe d'excellents outils. Mon conseil, c'est de vous tenir près des associations professionnelles et de consulter des gens qui le font. Et de consulter parce qu'il y a des gens bien établis en entreprise individuelle qui peuvent vous donner d'excellents conseils sur la façon de gérer ces choses-là.
Merci beaucoup d'avoir assisté à cet épisode. Est-ce que je peux savoir où on peut vous suivre sur les réseaux?
J'invite tout le monde à visiter le site de mon entreprise Versacom, celui d'IDEM également. On est très fiers de notre cabinet, on est très fiers des relations qu'on a avec les engagés, avec les gestionnaires, avec les gens du milieu. Donc, je vous invite à le visiter, à prendre de vos nouvelles. Je vous invite à collaborer avec nous, bien sûr, aussi.